Alors lui, nous avons...
On n'a pas eu des fiches, nous donne-moi un peu.
Parler de... du rôle du peuple d'Israël parmi les nations, en nous servant de la paracha de Chayei Sara que nous venons de lire ce Shabbat. La première remarque est que la paracha qui est censée parler de la vie de Sara traite de sa mort. Et donc la question qui se pose est pourquoi la Torah parle des vies de Sarah au pluriel, car le mot vie en hébreu est au pluriel, ce qui induit immédiatement une compréhension différente de ce que nous avons l'habitude d'entendre dans d'autres langages. Autrement dit, la vie n'est pas la vie, mais les vies. Il est des vies que nous pouvons voir et toucher, vivre, palper, et il en est d'autres qui sont plus subtiles, à un niveau d'entendement beaucoup plus profond. A parasha mechuna Chayei Sara, donc la parasha qui a été donc appelée, nommée Chayei Sara, les vies de Sara, oseket beikar bekol ma shemitrachesh dafka achar mitata shel Sara imenu. Elle vient traiter beaucoup plus de ce qui va se passer après la disparition, qu'on appelle communément la mort, mita. La raison est simple, hayehadut eina mityacheset la mavet ke'el chidalon. La mort dans le judaïsme n'est pas considérée comme une finalité. A Torah mechanechet otanu lere'iya kolelet. La Torah, encore une fois de plus, vient nous éduquer à une vision beaucoup plus globale, et non pas à une vision fractale de l'existence. Malheureusement, la plupart d'entre nous, étant placés dans un monde de multitudes de détails, eh bien nous n'arrivons pas à entendre, à comprendre, à embrasser la totalité. Nous sommes perdus dans les détails de ce monde. Ce qui fait que nous sommes toujours voué aux fautes, car les fautes sont synonymes d'individualité et de manque de vision globale. Qu'est-ce qu'une faute, donc ? C'est tout simplement sortir du monde unitaire pour tomber dans un monde fracturé, éparpillé, et c'est de là que naît la notion de faute. Quiconque serait dans un monde unitaire, ne pourrait jamais fauter. C'est pour cela que la Neshama ne faute pas. La Neshama se trouve constamment dans un monde d'unité, et donc la faute n'est pas reliée à son être. Nefesh ki techeta. Jamais il est écrit dans la Torah qu'une Neshama faute, ça ne veut rien dire. Qu'une neshama se salit, ça ne veut rien dire. On peut mettre des écrans autour de cette neshama, mais la neshama, elle, reste intacte. Si chas v'shalom, il y avait une situation, une existence telle que celle-ci, que la neshama elle-même est touchée, eh bien, il n'y a aucun espoir dans ce monde, chas v'shalom. L'espoir de ce monde, c'est que l'essence, le point culminant reste toujours dans sa sainteté de base. On l'a appelé, dans d'autres cours, la Ségoula. On l'appelle aujourd'hui l'essence de l'unité. Le monde étant créé, il est tombé de l'unité première vers la disparité, vers le pluriel de ce monde. Pour retrouver Akadosh Baruch Hu dans ce monde de détails, il faut tout simplement revenir à l'unité, dans tous les sens du terme. Et notre travail, en tant que peuple d'Israël, c'est de ramener l'unité au monde qui a perdu cette unité, parce qu'il est tombé dans les détails de la vie. Donc nous sommes en réalité la dernière mémoire, je parle du peuple d'Israël, de la nation d'Israël, de ce que représente l'entité. Un mot qui n'existe pas en français, l'entièreté. C'est-à-dire que Israël, c'est le souvenir de l'entier. C'est le seul lien avec l'infini, béni soit-il, qui est la droiture même. Et c'est pour ça que nous nous appelons Israël Yashar. Yachar El. Donc ce retour vers l'unité, c'est ce que nous essayons de faire dans nos cours, car les cours ici sont donnés dans ce sens-là, de ne jamais tomber dans les détails, même pas dans les détails de l'histoire elle-même, mais toujours à travers l'histoire, retrouver l'idée générale, l'idée motrice qui fait avancer en réalité un cheminement depuis la création du premier homme jusqu'à l'avènement messianique comme une compréhension globale d'un seul mouvement qui s'habille dans des acteurs, tous les personnages de la Torah, mais qui en réalité vient nous donner l'évolution d'un ustensile qui à la fin de tout ce processus est censé être capable de contenir l'infini. Voilà le rôle de toute la Torah, de tout le Tanakh. Et cette évolution, cette construction de ce Keli s'appelle la construction de la Malchut. On construit la dernière sphère, celle qui est capable de recevoir. Elle est féminine, et donc on est en train de la construire. Alors au départ, elle est dans ces deux éléments, ces deux acteurs, Adam et Chava. Et elle se brise, et elle se reconstruit, et elle se rebrise. Et tout doucement, on forme cet ustensile qui, vous comprenez bien, est de l'ordre de l'infini, car il doit contenir l'infini. Donc ce n'est pas facile de construire cet ustensile. Ce n'est pas pour recevoir un litre d'eau. C'est pour recevoir l'infini, béni soit-il. Donc le kli en question, la malchoute, est censée être capable de contenir les valeurs de l'infini. Et toute l'histoire de l'humanité, et notamment et précisément l'histoire d'Israël, c'est pour la construction de ce kli-là. C'est tout. Et nous évoluons. Et cette construction se fait précisément sur trois pôles principaux, le temps, l'espace et l'être. Et donc nous devons tout faire pour construire cet ustensile pour qu'il soit capable de contenir et de révéler l'infini. Donc à partir de ce moment-là, nous ne pouvons même pas voir la vie et la mort comme une existence et un arrêt, mais comme une existence qui passe par un point de changement et encore une autre existence après. C'est-à-dire qu'en réalité, il est des éléments qui effectivement disparaissent, mais il en est d'autres qui ne peuvent pas disparaître. La Neshama ne meurt jamais. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est mort, on pleure essentiellement parce que sa Neshama n'est plus habillée dans un corps. Mais lui, il existe. Il continue de vivre. Seulement, on ne le voit pas. Alors pour nous, ce qui n'est pas visible n'existe pas. C'est un petit peu infantile, puéril. Il y a beaucoup de choses qui existent que vous ne voyez pas. Et un jour, vous verrez. Et donc, à Torah Mechanechet Otanu, la Torah nous éduque à une vision kolelet, globale, ולא לראייה חלקית של המציאות, et non pas une vision fractale, fracturée, éparpillée, morcelée, של המציאות, de l'existence. באופן כזה, de telle manière que, שיש להתייחס אל המוות כאל ציר, בין המציאות בה הנשמה מלובשת בגוף, בעולם העשייה, ובין מציאות מקבילה בה הנשמה כבר התפשטה מגופה החומרי. Qu'est-ce que la mort? C'est un point de passage, c'est un axe qui fait la séparation et plus précisément la distinction entre le moment où la neshama était habillée dans un corps et le moment où la neshama n'est plus habillée, en tout cas pas dans un corps matériel tel que le nôtre. Là-bas aussi, elle est habillée dans le même corps, mais beaucoup plus subtil. Ça veut dire qu'en réalité, ce que nous voyons comme une fin n'est qu'un commencement pour quelque chose d'autre. De la même manière que le bébé qui naît dans ce monde, il a vécu dans le ventre de sa maman. Et au moment de son vécu dans le ventre de sa maman, où il reste là-bas, pour nous ici, 9 mois, mais pour lui là-bas, une éternité, car le temps n'existe pas pour le fœtus. C'est pour ceux qui sont à l'extérieur qui comptent combien de temps elle était enceinte. Et lorsque le fœtus doit passer, sortir, eh bien, pour lui, c'est une mort. Dans le ventre de sa mère, on lui dit, ça y est, t'as fini ton temps dans le ventre, t'as fini ta vie, maintenant tu dois partir. Et donc, il meurt, il a l'impression de mourir, et en réalité, il naît dans notre monde. Moralité, la partie par laquelle le bébé, le fœtus qui devient bébé, va sortir, s'appelle, dans le langage de la Torah, un cimetière. Un cimetière, un tombeau, kever, c'est-à-dire la partie sexuelle de la femme s'appelle kever en hébreu. Pourquoi? Parce qu'elle est en réalité le passage, l'axe entre la vie et la mort, qui en réalité, vous comprenez bien que c'est un passage à une autre vie. Et si le bébé à l'intérieur ne veut pas sortir, comme nous ici qui avons peur de mourir, mais en réalité, il va mourir dans son ventre sans pouvoir accéder à un deuxième passage de sa vie. Et ce système continue et grandit aux mesures de l'univers tout entier. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous mourons dans un degré et nous renaissons dans un autre degré beaucoup plus grand.
C'est dans quel degré?
Dans tous les degrés. À chaque fois que nous traitons un degré, s'il n'est pas réalisé, vérifié dans tous les domaines, c'est qu'il est faux. Une formule, pour savoir si elle est vraie, elle doit être vraie dans tous les domaines. Donc à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une formule, toute la Torah, c'est une formule divine, eh bien elle est valable dans tous les domaines. Autrement dit, même dans le domaine que tu ne soupçonnes même pas être une mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu étais un petit peu malheureux, donc tu es mort par rapport au degré de vie que tu avais hier. Eh bien, c'est tout simplement pour te faire passer demain à un degré supérieur de vie. Donc à chaque fois, tu dois mourir un peu. Et c'est pour ça que nous allons dormir. Le sommeil fait partie de cette mort. Un petit peu plus petit, 1/60, mais c'est la même chose. Donc à chaque fois qu'on va mourir, on dit Shema Israël. À chaque fois qu'on va dormir, on dit Shema Israël. C'est la même chose. Okay.
Oui, moi je me pose une question, c'est le monde du bébé que vous comparez à le monde qui nous attend après la mort. Il y a quelque chose qui reste quand même une question, un inconnu. C'est-à-dire que le bébé, quand il arrive dans ce monde qu'on appelle la vie, il n'est pas seul. Il a autour de lui tout un monde, en particulier d'amour, de parents, de pères, de mères, de frères, de sœurs, d'humanité.
Parce que vous êtes en train de me dire que vous savez ce qui se passe quand vous sortez d'ici. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus
non,
de...
Non, c'est ma question.
Mais justement.
Justement, ma question,
mais
c'est...
Mais vous affirmez quelque chose.
J'affirme que ce monde dans lequel je suis et où nous sommes...
Exactement
nous
comme le bébé qui
seul.
Ne sait pas lui-même que lorsqu'il sera à l'extérieur, il y aura de l'amour et une famille.
Bah, c'est ma question.
Mais il y a la même chose. Au moment de la mort,
oui.
Et aujourd'hui il y a même scientifiquement des preuves à cela, des gens qui sont partis et qui reviennent, et qui racontent ce qu'ils ont vu, tout le monde les attend.
Ok, mais ce n'était pas uniquement ma question. Ma question, c'était le sentiment que nous laisse le départ et la mort de quelqu'un. Parce que c'est nous qui restons seuls avec la disparition de cette personne.
La question maintenant a dévié à autre chose.
Ouais.
Tout à l'heure, c'était concernant celui qui passe. Mais là, vous êtes en train de parler de ceux qui restent.
De ceux qui restent.
On est d'accord. C'est pour ça qu'il y est écrit au niveau de Sarah, qu'on vient de lire. Vayavo Avraham lispod le Sarah velifkota. Il est venu faire un esped à Sarah et elle a pleuré. Pleurer, c'est pour qui? Pour lui.
Pour lui, oui.
Le esped, c'est pour qui?
Pour elle.
Ça veut dire que lui reste ici, il pleure parce qu'il ne sait pas, mais elle, elle passe dans un autre domaine, et là-bas c'est un esped. Et le lifkota, il est tout petit, avec un petit kaf. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qu'on imagine nous, au point où nous pleurons, et ça fait partie de notre vie, il faut pleurer, il y a 3 jours de pleurs, c'est tout simplement pour ceux qui restent. Mais ceux qui sont partis, c'est un autre domaine. Ils ne vivent pas ce que nous on ressent ici. C'est un autre domaine.
Ah ben c'est sûr.
Et si on n'avait pas une Kabbalah, on ne pourrait pas dire ce genre-là de choses, parce que qui sait ce qui se passe de l'autre côté? Donc nous avons reçu ça comme une Massoret, comme une Massora, qu'est un passage de père en fils, et en réalité c'est ça ce que nous avons reçu de la Torah, de l'Éternel, pour nous expliquer qu'en réalité nous sommes dans un processus éternel qui ne fait qu'évoluer tout le temps. De la même manière qu'au niveau de la chimie, de la physique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
J'ai un problème, si j'ai bien compris, il y a 600 000
Nechamot. Il y a 600 000 matrices de Nechamot qui se dispersent, divisent en des millions de corps.
Mais comment je peux imaginer alors si la Nechama quitte?
On ne peut pas imaginer. Imaginer, c'est donner une image. Donner une image, c'est devient de la Avodah Zarah. Donc, en réalité, il faut comprendre qu'il y a une clé qui est visionnée par 2000 personnes. C'est la même chose. Ça veut dire, il y a ici une notion qui est révélée à 2000 personnes. Et ces 2000 personnes s'occupent du même sujet.
C'est comme un atome qui a...
Exactement. Alors il y a une Neshama parmi les 600 000, on prend une. Cette Neshama unique, lorsqu'elle rayonne, elle rayonne sur 20 000, 30 000, 40 000 personnes. D'accord? Car il y a ici deux notions. Une notion quantitative et une notion qualitative. Donc la qualité s'habille dans la quantité. Et c'est ce que je suis en train de vous dire depuis le début du shiur. Ne vous perdez pas dans la quantité au détriment de la qualité. Tout ce qui est qualité est toujours petit, est toujours moindre, est toujours rare. Et c'est pour ça que la lettre Yud dans l'alphabet hébraïque est la plus petite. Car elle est la racine de toutes les lettres. On appelle aujourd'hui ça, encore une fois, au niveau scientifique, de la haute technologie. C'est-à-dire très peu de matière et beaucoup d'énergie.
Excusez-moi. Vous avez dit 600 000 Nechamot qui cherchent...
Non, moi j'en ai pas parlé, c'est une question. C'était pas le but du cours, mais oui. Si vous avez une question...
C'est 600 000 Nechamot, chaque Nechama qui s'éclate.
Qui se subdivise.
Subdivise, c'est va dans des Nechamot Yehoudi.
Pas dans des Nechamot, dans des corps.
Des corps de Yehoudim, okay.
Non, dans, au niveau des 600 000, oui.
Oui.
C'est-à-dire, il y a 600 000 degrés d'âme qui s'habillent dans le peuple d'Israël à toutes les générations. Okay. Ça veut dire que ces 600 000, à un moment donné, se sont habillés dans 10 000 personnes. Ces 600 000 se sont habillés dans une personne, Adam Harishon. Et aujourd'hui, elle s'habille dans 15 millions de personnes.
En Israël, toujours.
Toujours. Donc il y a en réalité deux axes, un axe vertical et un axe horizontal. L'axe horizontal, c'est l'axe de l'histoire. Et l'axe vertical, c'est la Neshama. Donc à chaque fois que la Neshama descend, cette grande Neshama qu'on appelle Israël, elle trouve ici 10 millions de personnes, 15 millions, 20 millions. Pendant la Shoah, on nous a enlevé 6 millions. Vous comprenez? Mais c'est toujours la même Neshama. Ce qui fait que lorsque vous avez la même Neshama dans moins de gens, la quantité est très petite et la qualité est grande. Ce qui fait que les hommes, individuellement parlant, avant, étaient beaucoup plus forts. Aujourd'hui, nous sommes forts au niveau du klal. Mais si vous prenez un individu, il n'a pas la connaissance du Rambam. Vous comprenez comment ça marche? Ok. Achaim nimshachim gam leachar amavet. Donc il y a une forme de vie, même après la mort. Im ki mofim betzura acheret. La différence, c'est que la vie après la mort, c'est une autre forme de vie. Ube parashat chaye sara, mafgisha otanu, et la parasha de chaye sara nous fait rencontrer im shnei harevadim, avec ces deux phases. Celle d'avant la mort et celle d'après la mort. Yoseket bema shekara bayamim shekadmu leototzir. La Torah nous raconte ce que Sarah a fait durant sa vie dans ce monde. Vegam b'chaim shelacharav, et ce qui s'est passé aussi après. Pourquoi? Ben tout simplement parce que c'est notre matrice. Et nous devons savoir que dans cette matrice qui s'appelle Sarah, il y a Israël. Donc, le mot Sarah contient en lui déjà tout le degré de l'essence même d'Israël, c'est-à-dire le Shin et le Resh, Sarah, qui est en réalité le prince, le représentant, et ainsi de suite. Bishlaf chayeh shel Sarah imenu ba'olam hazeh. Lorsque Sarah vivait donc dans ce monde-là, dans le nôtre, balta beyoter kana'uta beyachas lakesher ha'amitz, Hakayam ben Am Israël ou ben Eretz Israël. Ce qui était mis en relief essentiellement, c'était son zèle, sa jalousie concernant notre lien avec la terre d'Israël. Cette jalousie se fait seulement par l'enfant qu'elle a, Yitzhak. Mais elle sait, elle, Sarah, que Yitzhak contient en lui tout le peuple d'Israël à venir. Donc si elle fait des remises concernant la terre d'Israël, entre Yitzhak et son frère, Ishmaël, elle sait que ça va avoir des répercussions sur l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, Sarah? Et sur ce coup-là, elle est beaucoup plus forte qu'Abraham, à tel point qu'il y a une intervention divine qui dit à Abraham, c'est ta femme qui a raison. Sarah ma'amina besruto abiladit shel am Israël ala aretz azot. Sarah a conscience de l'appartenance d'Israël à cette terre d'Israël. Habituya kharif beyachas lehagar mochiach zot. Et voilà la preuve, lorsqu'elle parle d'Agar, la deuxième femme d'Abraham, et elle dit à son mari Abraham, va tomer le Abraham, garesh ha'ama hazot ve'et bna. Je veux que tu renvoies, que tu donnes des gerushin, c'est-à-dire que tu divorces de cette femme, Hagar, et de son fils. Pourquoi? Ki lo yirash ben ha'ama hazot im beni im Yitzhak. Il y a ici une notion d'héritage. Je ne veux pas que cet enfant de cette servante hérite de cette terre d'Israël qui appartient au peuple d'Israël à venir. Et si maintenant, toi, Abraham, tu fais une petite remise sur ce sujet tellement délicat, sache que ça va en s'élargissant, et à la fin des temps, c'est tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants qui vont souffrir de ce lien entre Ishmaël et eux, sur la terre. Ce qui se passe aujourd'hui.
À ce moment, pourquoi il s'est remarié avec Keturah qui était à au départ, puisqu'il y avait ce risque que...
Nahon. Alors, le inyan de ce remariage à la fin, c'est parce que Abraham est universel, et qu'il sait que malgré tout, le rôle d'Israël dans l'histoire, c'est d'arriver jusqu'aux nations du monde. Et étant donné que Ishmaël lui-même, lorsqu'il meurt, la Torah dit un mot, Vaïgva, un terme, dit Rashi sur place, on ne dit jamais ce terme si ce n'est que pour les tzadikim. De là, dit Rashi, Ishmaël, à la fin des temps, va faire teshuva. D'accord ? Donc ne vous posez pas de questions, comment on va se débarrasser ? C'est des cafards, je ne sais pas moi ce que vous sortez. Hein ? Ils se multiplient, on n'en peut plus. Hein ? Tu tues un, il y en a 200. Hein ? La finalité d'Ishmaël, c'est la tshuva. Donc, tshuva égale reconnaissance de la suprématie d'Israël et de sa souveraineté sur cette terre. Alors, ça peut passer par des guerres, ça peut passer par ce que vous voulez, mais ça, c'est ce qui s'est passé dans la Torah. Maase avot siman labanim. Et c'est déjà beaucoup en place, sachez-le. Parce que vous voyez que les problèmes avec nos voisins. Mais on a déjà réglé beaucoup de problèmes avec les grands pays arabes. Rabbi Yosef Bechor Shor, Zatzal Masbir. Donc Rabbi Yosef Bechor Shor, un grand sage, nous explique, Zatzal, qui lo yirash ben ha'ama. Pourquoi il est écrit ici yirash? C'est-à-dire le langage, c'est yerusha, qui veut dire héritage. Kelomar, nous explique le Rav, eino din sheyirash ben ha'ama imbni. Je ne veux pas que cet enfant-là hérite de cette terre. Ou les fichach, et c'est pourquoi, c'est Sarah qui parle. Et ni rotsa sheyadur kan. Je ne veux pas qu'il habite ici. Shema, parce que s'il habite ici, les achar mitaten, lorsque moi et toi, Abraham, nous allons mourir, Yomar, qu'est-ce qu'il va dire? Gamani ben Abraham. Moi aussi, je suis le fils d'Abraham. Veyavol Irash, et c'est ça sa clé pour dire cette terre m'appartient. Extraordinaire ce qui se passe exactement. Aouvda Shereshit Achizato Shel Am Israel Be'aretz Aïta Davka Derech Kinyan Shel Chelkat Kever Omeret Darsheni. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi notre première acquisition d'une place quelconque, d'une terre quelconque sur cette terre, passe par un achat d'un tombeau. C'est pas très réjouissant.
Okay?
C'est-à-dire, on est obligé maintenant de mourir, et donc notre lien avec cette terre passe par la mort. C'est ça que ça veut dire, Chas v'Shalom.
Ça veut dire aussi l'obanou l'ekvosh.
Okay? Mais ça, c'est encore un autre degré. Je ne parle même pas de ça. Je parle... même pas d'un champ. On aurait pu acheter un champ.
On a acheté
aussi. On a acheté le tombeau. Le champ fait partie de ce degré. Mais Abraham ne vient pas pour le champ. Bien que la Torah après dit que le champ s'est levé. La conclusion est simple. Notre lien avec cette terre ne dépend pas de nos actions. La preuve, c'est que la première acquisition passe par la mort. Autrement dit, au moment où tu es le plus passif, tu ne fais rien. Si je parle d'une acquisition d'un champ, c'est parce que moi, je laboure ce champ qu'il devient mien. Alors que là, la première acquisition passe par un acte qui est en réalité l'inverse de l'action, c'est-à-dire
la mort.
Moralité, la Torah vient m'enseigner que le lien que tu as avec cette terre ne dépend pas de tes actions. Même si tu ne fais rien, cette terre t'appartient. Mais Dubar Bekesher Nitzri, donc il s'agit ici d'un lien éternel, il n'y a aucune notion humaine, aucune décision humaine ne peut sortir ce lien, effacer ce lien, délier ce lien. החיבור בין עם ישראל לבין ארץ ישראל הינו בגדר של חידוש תיאולוגי. Plus que ce que je viens de vous dire, il y a ici une nouveauté théologique. Laquelle? c'est que le peuple d'Israël maintenant est en train de dire que Dieu n'est plus le maître du ciel, mais du ciel et de la terre. Elohe HaShamayim, comme il était considéré jusqu'à ce moment-là, Midbarer devient Elohe HaShamayim ve Elohe HaAretz. Il est le Dieu du ciel et de la terre. Autrement dit, Sarah, par sa mort, après sa mort, continue de travailler d'une manière passive et elle nous montre que le lien avec la terre d'Israël vient sans rien faire. Et grâce à ce lien, Dieu descend sur terre. Traduction, les valeurs du ciel doivent maintenant commencer à circuler sur la terre. Traduction un peu plus précise, il y a maintenant une nouvelle façon de voir la vie, avec les yeux du divin.
C'est déjà Abraham qui a...
Nahon. Mais maintenant, ça se réalise parce qu'il y a Yitzhak. Abraham, c'est encore trop global. Yitzhak, c'est le premier enfant Israël véritable, qui est circoncis à 8 jours, comme un bébé Israël. Avraham et Sarah hen dmuyot ha'enoshiyot ha'rishonot. Donc, je dis maintenant ce que vous venez de dire. Avraham et Sarah sont donc les premiers acteurs humains, les premières formes humaines, hanosot bekirban et ha'uma israélite befoal, qui contiennent en elles, ces deux formes humaines, le potentiel Israël qui existe bien avant la création du monde. Seulement ce potentiel maintenant descend et s'habille dans des êtres humains. Vous comprenez ça, hein? Ha'agdara she'Avraham noten le'anshechet me'anyenet. Et la définition avec laquelle Abraham se voit face aux enfants de Chet est très intéressante. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ger ve'toshav anochi imachem. Je suis étranger et je suis habitant. Comme qui? Comme Akadosh Baruch Hu lui-même. Autrement dit, Dieu est au-dessus de ce monde, mais il est en même temps dans ce monde. Qu'est-ce que vient dire Abraham aux gens de Chet? Comprenez bien qui je suis. Je suis le représentant de l'infini sur terre. Je suis maintenant porteur d'une nouvelle forme humaine qui va venir sur terre. Elle n'était pas sur terre jusqu'à moi. C'était une pensée. Elle s'appelle Israël. C'est moi le premier porteur de ce gène. C'est énorme.
Je vois pourquoi il s'est prosterné plusieurs fois devant les enfants. Puisque...
Se prosterner, ce n'est pas ce qu'on croit. C'est que je me rabaisse pour faire descendre le divin au niveau de celui à qui je donne. Comme un professeur, lorsqu'il vient enseigner, il se met au niveau de ses élèves. C'est ça, la prosternation. C'est pas être Ken aura des pâquerettes et lui dira « Moi, je ne vaux rien. » C'est pas ça du tout. D'ailleurs, la Gemara nous dit que l'homme, pour réussir son couple, doit toujours faire ce travail avec sa femme. « Ger mitzad nishmati » et donc, il est étranger parce que sa neshama vient d'un monde très élevé. Vetoshav mitzad goufi, et vous me voyez en réalité parmi vous, mais sachez que je suis différent. Vehivdilanu min hagoyim. Ephron, ça c'est l'autre acteur maintenant. En face de Abraham, nous avons un Ephron. Qu'est-ce que c'est Ephron? C'est pas Afar, c'est un petit Afar. D'accord? Yelet Yaldon. D'accord? Ish Ishon. D'accord? Dov Dubon. Afar Ephron. Donc c'est le premier, la matrice de qui?
De Paro.
De Paro. Quand il va grandir ce Ephron, ça va devenir Paro. Sa racine, c'est, vous l'avez entendu, Afar. C'est-à-dire la poussière. Qu'est-ce que c'est que la poussière? Non, ça c'est trop simple. C'est l'éparpillement. La poussière, c'est des milliards de graines de poussière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a perdu ici chez Ephron? L'unité première. Comment s'appelle l'unité première de tout? Akadosh Baruch Hu, d'accord? D'accord ? Ça veut dire que si je devais donner une couleur à la première unité de ce monde, quelle couleur c'est ? Le blanc. Comment on dit blanc en hébreu, à part la vanne ?
Non.
Ça doit faire partie du cours, Rabotai. Ne dites pas n'importe quoi. Et Ephron, il s'appelle Ben Tsochar. Qu'est-ce que c'est Tsochar en hébreu ? Vous ne connaissez pas Tsachor en hébreu veut dire la vanne bohek. Quel ? Tsachor. Tsachor, c'est un grand blanc. Magnifique.
Éclatant.
D'accord ? Donc, Ephron dit à Abraham, tu sais comment je m'appelle ? La poussière éparpillée, mais je suis le fils de la blancheur initiale. Autrement dit, Ephron est en train de dire à Abraham, il y a eu un bug dans mon histoire. Au départ, j'étais comme toi, et je me suis perdu. Abraham, je sais que toi, tu es le représentant de Dieu sur terre. Comment est-ce qu'ils lui disent ? Nessi Elohim ata betochenu. Nous savons tous que tu es le Nassi, le prince de Elohim parmi nous, parmi les hommes. Alors qu'est-ce que vient Ephron demander à Abraham ? Sauve-moi. Sauve-moi, je suis tombé de la blancheur initiale. Regarde, je suis devenu une poussière. Et toi, je sais que tu es le rédempteur. En tout cas, je sais qu'en toi est caché le messianisme du monde. C'est ça la discussion qui se passe entre les deux.
C'est comme Pharaon à la fin.
La même chose. Je vous ai dit que c'est une seule et même histoire qui évolue. Ephron ou Shem Atsofen. Donc Ephron, c'est le nom de code. Aromez al-Hidarderuto chez la Torah Mekori. Qui est en réalité la dégradation de la source première. Ephron mesamel et Afraa. Comme pour Paro, Ephron représente toutes les difficultés, tout ce qui vient nous déranger dans ce monde. Harishona la mahalach ha'elohi ba'olam. Pour tout le système divin dans ce monde. Il y a toujours un Ephron quelque part. Ephron ou Shoresh Afar. Donc Ephron, c'est la racine du serpent. Puisque le serpent ne mange que Afar, Venachash, Afar, Lachmo. Donc en réalité, nous sommes face à Adam, Chava et le serpent sous une nouvelle forme. Et cette fois-ci, le serpent qui sait, Ephron. Et là, il y a quand même une évolution par rapport au serpent. Car maintenant, il y a une certaine teshuva qui est en train de se mettre en place. Yesodo apnimi shel paro, c'est le profond degré du pharaon. Moussak ze melamed ala itrachakut haolamit min hashoresh hamekori hatov. Mais tout simplement, ça vient nous enseigner que Ephron s'est éloigné. Il vient, en réalité, nous expliquer qu'il est tombé de la source première, qui s'appelle donc le Tsochar. N'oubliez jamais ce mot Tsochar, Tsachor, qui veut dire blanc éclatant. Ephron ben Tsochar. Donc il s'appelle Ephron, fils de Tsochar. C'est-à-dire, mon papa était blanc et moi je suis poussière. Il y a un problème. Donc il en est sorti, il s'est éloigné de Dieu, de cette blancheur première. Donc dans une vision profonde, Ephron metzapel geulato. Ephron cherche à être rédempté, à être sauvé. Il reconnaît en l'homme qui est en face de lui, Abraham, toute la force du peuple d'Israël qui va en réalité guérir le monde. C'est un Aïn, hein? Il y a un problème ici. Je l'ai écrit ce matin, donc ne m'en veuillez pas. Betat Mouda. Il le sait dans son subconscient. Shezo overet be'echreach derech am Israël. Shehu roek var bishlav ze bidmuto shel Abraham. Il voit déjà le peuple d'Israël dans cet homme Abraham. Ça veut dire qu'il n'a pas tout perdu, ce Ephron. Il est quand même intelligent. Il a quand même une souffrance. Il veut quand même être sauvé. Ça veut dire que le monde a un but. Ça veut dire que le monde ne doit pas tomber dans le désespoir. Il y a un espoir. Ceux qui sont tombés veulent être sauvés. Les nations du monde veulent Israël pour qu'Israël leur donne la lumière. Medubar bemifkash kosmi. Donc c'est une rencontre cosmique ici. Vous savez ce que ça veut dire cosmos? J'aimerais bien. Dites-moi ce que ça veut dire cosmos. Non. Non. Pas du tout. Cosmos, ça veut dire de l'ordre, un ordre. Un ordre.
En quelle langue?
En latin, en grec. C'est l'ordre mondial. C'est-à-dire, quand tu dis le cosmos, c'est-à-dire remettre le monde dans son ordre. C'est pour ça que j'ai utilisé cosmique. Ben Shoresh HaTarbut HaYisraelit, entre la culture Israël, les Ben Shoresh HaTarbut HaOlam et la culture du monde. Ephron mevin et omek advarim veyodea sheyeshuato tavo me'Avraham. Il comprend, ce Ephron, que sa rédemption, que sa guérison va venir d'Abraham. Ou mevin sheyageula tluya beYisrael. C'est la racine même. Ici, en réalité, on est en train de jouer avec les graines qui, au fur et à mesure que la Torah va avancer, que son histoire va avancer, ça va devenir des peuples. Pour l'instant, on est avec quelques personnages, vous comprenez ? Mais ces personnages représentent tout ce qui va venir après. Des milliards de personnes, de toutes les générations.
Il savait tout ça parce qu'il habitait à Hebron ?
Il savait...
Réber de Noun ou... Ou bien il savait ça comme ça, comme il savait quoi. Il était perdu dans la poussière, donc comment il s'est rendu compte de ça quoi.
Tout ceci est l'acte du narrateur. C'est-à-dire, c'est juste Akadosh Baruch Hu qui nous raconte une histoire avec des personnages pour nous dire en réalité ce qui est en train de se passer dans le monde. C'est juste un enseignement pour nous. Quand je raconte une histoire à mon petit garçon qui va dormir, il sait très bien que tous les acteurs de mon histoire n'existent même pas, à la limite. On s'en fiche. Il sait que papa, il veut lui faire passer un message. C'est ça que ça veut dire. Alors effectivement, ce Ephron, on est censé savoir comment savait-il. Mais tout simplement parce qu'au fond de son être, il y a toujours une étincelle, je vous l'ai dit au début de ce cours, qui a une intuition bonne. Et que même ce que vous voyez comme perdu dans ce monde est toujours rattrapable. Donc ne vous jamais n'abandonnez dans aucun domaine. C'est ça l'ultime étude de Rabbi Nachman de Breslev. En yehush va'olam klal. Dans tout ce que tu as cru déjà foutu, perdu, il y a toujours un espoir. Il faut juste que tu trouves le point de lumière. Et comment ça se passe? Parce que c'est très intéressant, grâce à votre question, je peux introduire un autre sujet. C'est que le maître, en l'occurrence ici, Abraham, doit déceler chez l'élève, en l'occurrence ici, Ephron, ce point de lumière. Un bon professeur, un bon rav, doit toucher un seul point chez son élève. S'il arrive à toucher ce point, cet élève s'est réveillé pour la vie.
C'est auprès de ce Ephron qu'il achète 400 shekels.
Tout à fait.
Et c'est en rapport avec les 400 années de Galoute.
400 années de Galoute, 400 degrés de la mort. La lettre Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet, c'est-à-dire le foutu. C'est, vous comprenez? C'est tout ça. Les 400 hommes qui vont venir avec Esav pour combattre Yaakov ou pour l'aider, peu importe. Tout ça, c'est la même force. C'est-à-dire, il rachète la mort. Il transforme la mort en vie. Et c'est pour ça que la paracha va s'appeler Chaye Sara, alors qu'on parle de l'acquisition d'un tombeau pour une mort.
C'est pour ça que les nations du monde, elles servent en fait à ce projet.
Exactement. Elles vont reconnaître qu'Israël, c'est la source de la vie. Etz Chaim, c'est ça la Torah. C'est pas un bouquin, c'est pas un parchemin la Torah. Nous sommes porteurs de vie. Nous avons acheminé la vie et nous continuons de le faire dans ce monde. Donc Israël, Chai, Am Israël, Chai. Ce n'est pas une chanson, c'est une vérité absolue. Donc Israël, Meyatzeg et Erke Hashem Baolam, Hazé. Et donc nous sommes les représentants de toutes ces valeurs infinies dans ce monde. Mais c'est exactement ce que disent les hommes là-bas. Nesi Elohim ata betochenu. Ça y est, on a compris. Tu es le représentant de Dieu sur terre. Mais attention, À chaque fois qu'on aura un problème, on viendra chez toi. Car tu es responsable. S'il fait noir dans ce monde, s'il y a des guerres, c'est à cause de toi. Tu ne donnes pas assez de lumière. Tu t'es occupé de faire autre chose au lieu de nous apporter la lumière. À bon entendeur, salut. Nous sommes revenus sur notre terre d'Israël pour éclairer le monde. Et ce n'est pas de l'orgueil. C'est une responsabilité énorme. Et au niveau de l'individu que je suis et du peuple que je représente. En commençant par ne pas jeter un papier par terre et à respecter une femme quand elle est devant moi sur le supermarché. Ou ne pas doubler en voiture à droite et à gauche juste pour gagner encore une place. Et si les nations du monde me voient comme telle, j'ai réussi ma mission. Et tant qu'elles ne me voient pas comme ça, je suis chas v'shalom en train de profaner. Et la plus grande des profanations, c'est lorsqu'un juif ne se trouve pas et n'habite pas sur sa terre. Chaque homme qui habite en dehors de la terre d'Israël profane le nom de Dieu. Ézéchiel 36. Parce qu'il ne joue pas son rôle parmi les nations, parce que c'est à partir de cette terre que la nation peut faire son travail. Alatikuna globali shel abria. Donc concernant cette réparation globale de toute l'existence, de toute la création, remez à pasuk achote meteu kinyan ameara. Meara tamachpela. Il y a un verset qui clôture l'achat, l'acquisition. Et regardez ce que ce verset de la Torah nous dit. Vayakom hasade. Incroyable. On prête à un champ des éléments humains. C'est-à-dire, le champ s'est levé. Vous avez déjà vu un champ qui se lève. Vehameara, cherbo. Et ainsi que la caverne qui est à l'intérieur de ce champ. Elles se sont levées. Les Avraham. Qu'est-ce que ça veut dire les Avraham? Pour Avraham. La Ahuzat Kever Me'et Bnechet, alors que c'est un tombeau par rapport au Bnechet. Regardez bien le passage. Par rapport au Bnechet, ce n'est qu'une tombe. Par rapport à Avraham, c'est une rédemption. Vous comprenez ce que la Torah est en train de nous dire ici? Avec des mots simples, les gens de Chet n'y voyaient rien dans cette caverne. Abraham, puisqu'il est représentant de Dieu, ils lui disent, rentre pour toi, apparemment ça va être différent. Nous, on ne voit rien. Abraham rentre là-bas et qu'est-ce qu'il voit? Adam Arishon. Et il comprend que Adam et Chava sont en train d'être tikounés par lui et par sa femme. Ça n'existe pas en français. Hein? D'accord? C'est à dire que Abraham et Sarah sont en train de réparer Adam et Chava.
La faute.
Kima haïtalo. Et les sages nous disent Kima haïtalo. Ce champ s'est levé. Il a eu une Kima. Qu'est-ce que c'est Kima en hébreu? Existence. Kiyum. Chai vekayam. Ceux qui étaient hier à Hebron savent de quoi je parle. Okay? Il y avait hier plus de 38 000 à 40 000 personnes à Hebron. C'est un record jamais atteint. Sans compter les gens de Hebron. On nous a ouvert, il y avait l'armée, il y avait une fierté extraordinaire, un ressenti énorme. Et la prière, les centaines de minyanim devant la Mehara, c'était énorme, tout simplement énorme. Et c'est les seuls personnages qui arrivent à nous unir vraiment. Car il y avait de tout. De toutes les couleurs, de toutes les tendances. Parce qu'on a une seule mère de cette envergure. Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est les seuls qui peuvent. Le rabbi, un tel, il est accepté par ses chassidim. L'autre rabbi, il est accepté par ses chassidim. L'autre, il est accepté par ses chassidim. Mais Abraham, Sarah... Il n'y a plus de chassidim, il n'y a plus de mitnagdim, il n'y a plus personne. C'est papa et maman. Et c'est énorme. Kima haïtalo, tkuma haïtalo, ou bimyuchat che bimkom ameara ou tsiunam shel adam vechava, horei haenoshut kula. C'est-à-dire qu'il s'agit ici d'un travail chirurgical de Abraham ou dans le point qui est la source même de l'humanité. C'est-à-dire qu'Abraham et Sarah sont en train de jouer avec des pincettes pour corriger l'humanité en touchant Adam et Chava. Abraham savait, c'est pour ça qu'il s'acharne à acheter ce degré. Ouais. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il rachète la mort, c'est tout simplement pour corriger la mort. Donc la mort, telle qu'on la connaît aujourd'hui, disparaîtra. Elle changera de forme. Un jour, peut-être, un jour, un cours à part entière pour ça.
Qui ressuscite Sarah,
elle est ressuscitée. C'est pour ça que ça s'appelle Chaye Sarah. C'est ça, en réalité, que la Torah est en train de nous dire. Pas dans la forme où nous le voyons, mais dans ses enfants, dans ses petits-enfants, nous sommes là. Moi, hier, j'étais voir ma grand-mère.
C'est vous qui avez dit dans un cours précédent, Abraham rat Abakar,
okay, c'est moi qui vous l'ai dit. Mm-hmm. Nachon. Mm-hmm. Bakar, c'est Rivka.
Non, Kever.
C'est la même chose. Mm-hmm. Il est allé voir Rivka. Habakar, c'est les lettres de Rivka. Mm-hmm. Et il est allé vers la tombe pour justement faire le passage. Je vous ai dit, quand une s'éteint, l'autre se lève. Donc, qui c'est Sarah, en réalité, qui n'est pas morte et qui a ressuscité? Rivka. Vous comprenez comment ça marche? Je vous ai dit, c'est une seule et même histoire. Elle change tout simplement de robe. C'est la même femme, c'est la malchut. Ota geveret beshinui aderet, on dit en hébreu. La même femme en changement de vêtements. Si vous ne comprenez pas la Torah avec cette vision-là, vous ne pouvez rien comprendre. Sarah, ça va être Sarah. Rivka, c'est une autre histoire. Abraham, Lot, Tchabab et ma grand-mère. Et ça ne veut rien dire tout ça. C'est une seule et même histoire. Abraham, Avinu, c'est comme moi, hein, je n'avais pas la même chemise tout à l'heure. Alors celui qui m'a vu cet après-midi et qui me voit maintenant, il me dit c'est un autre. Vous compreniez que c'est le même, j'ai juste changé de chemise. Abraham, Avinu, Zacha, Liot, Merkava, Lesfirat, Achesed. Abraham, c'était la bonté dans le monde. C'est-à-dire, il est devenu le porteur du flux divin. Quel est son but? De faire vivre. Notre première relation avec Dieu, c'est quoi? La vie. Nous vivons de par son être. Première des choses. Avant de réfléchir, avant d'étudier, avant de faire quoi que ce soit. Si tu ne vis pas, laisse tomber. Donc, Dieu nous fait vivre. C'est notre première acquisition. C'est notre premier cadeau. Dieu fait vivre le tout. Qu'est-ce que c'est donc ce chesed qui est attribué à Abraham? On dit chesed le Abraham. Eh bien, cette sphère, c'est d'acheminer les valeurs supérieures dans ce monde. Les valeurs supérieures s'appellent chokma et bina. Ces valeurs, elles s'habillent dans différents éléments dans notre vie. Par exemple, le Shabbat, vous les faites venir sans le savoir, en touchant le pain et le vin. Le vin, c'est la bina, c'est une grande maman, et le pain, c'est un grand papa. Alors on commence par le vin, parce qu'il est plus proche de nous. La maman est toujours plus proche de ses enfants. Et pour l'instant, on cache le papa, le pain. Et une fois qu'on a déjà fait le kiddush sur maman, on va dire à papa, Amotzi lechem min haaretz. Lechem, c'est papa. Vous comprenez? Et dans tous les domaines, vous le faites sans savoir. Et on touche des éléments sans cesse. Donc Abraham, c'est ce qu'il a compris. Et il a commencé à acheminer les valeurs supérieures à travers le flux du chesed, de la bonté qui achemine tout ça. Chazal melamdim shelo rak she'Avraham zacha liot nos'o shel chesed ha'elyon, ela she'besha'a she'mal atzmo u'patach shlav chadash ba'historia. Zrimat ha'chaim al ha'malchut. Abraham, non seulement était porteur du chesed, mais en même temps il a ouvert le canal qui était bloqué jusqu'à l'âge de 90 ans. 99 ans. À 100 ans, Abraham était ouvert. En faisant la Brit Mila. Il a ouvert le canal par lequel Israël maintenant peut passer. Ce qu'on appelle la Brit Mila. Au moment où il a ouvert ce canal, tout a commencé à circuler. Vous savez que vous avez déjà eu un aquarium? Vous, parfois, vous voulez vider l'eau de l'aquarium, vous mettez un tuyau à l'intérieur, vous aspirez un peu, et l'aspiration a tiré le début de l'eau et elle continue à circuler dans les seaux ou aux toilettes pour vider l'eau. Quand on fait une Brit Mila à un bébé, le moed doit aspirer. Que se passe-t-il au niveau de l'être de ce bébé au moment où le moed aspire le sang? C'est l'une des actions. Il y a d'abord coupé, il y a retourné la peau et il y a aspiré. Eh bien, au moment où il fait ça, ça ressemble à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des éléments qui se trouvent sur la fontanelle du bébé, tous les éléments de vie que le moed par en bas aspire. Et tout commence à circuler dans le corps de l'enfant. Et aujourd'hui, la médecine découvre que ce phénomène doit se passer à 8 jours.
Pour les filles.
Okay? Les filles, elles ont un autre système, c'est le même système sous une autre forme, parce qu'elles ont plus de construction. Donc elles sont doubles. La maman, par exemple, pour un garçon est impure de 7 jours, pour la fille de 14 jours. Parce qu'elle a une préparation qui est beaucoup plus dans le ventre. C'est encore un autre sujet. Quand on arrivera à Tazria, on pourra peut-être parler de cela. Ça ne veut pas dire que la femme est moindre, au contraire. La plupart des femmes sont venues dans ce monde pour leur homme. Elles ne sont pas venues pour elles-mêmes. Zehu asod ha-ne'emar al Avraham avinu. Donc quand vous avez épousé votre mari, vous avez épousé tout en même temps. Votre fils, votre amant, votre mari, votre père et Zara, c'est tout le problème. Zehu asod ha-ne'emar al Avraham avinu. Alors de temps en temps, tu dois savoir comment te comporter, selon comment il est. Becha chotmin. Il est dit concernant Abraham, c'est avec toi qu'on va sceller. Qu'est-ce qu'on scelle avec Abraham? Non. La bracha. Ata gibor le'olam Adonai, mecheye metim, atarav le'oshia, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, Baruch ata Hashem, Magen Abraham. On a commencé par tout le monde et on termine par Magen Abraham. Donc, protection d'Abraham. Il faut protéger Abraham. Pourquoi il faut protéger Abraham? Ou bien c'est Abraham qui protège? Je comprends rien. Dites-moi. Je vous pose des questions, c'est rhétorique. Il faut protéger Abraham ou c'est Abraham qui protège? Dans les deux sens. Lui, il protège le monde parce qu'il fait vivre, mais il faut le protéger parce que la bonté seule est dangereuse. Il faut lui donner des limites. Il faut la couvrir. Il faut la cacher. Parce que lorsque tu es trop bon, vous avez compris. Kevan Sherak Bisrutra Nitan Leagia Lesfirata Malchuta Chotemet et Kola Historia. Et donc c'est Abraham qui en réalité arrive au bout de l'histoire. Comme c'est le premier, c'est aussi le dernier. Pourquoi? Parce que sauf Maase, Bemarchava Trila. Donc Abraham est obligé de clôturer pas seulement la bénédiction dans la Hamida, mais l'histoire tout entière. Par quoi l'histoire se clôture? Par quelle sphère? La Malchut, la royauté d'Israël, qui est en réalité la traduction de la royauté de Dieu. Et qui fait ça? Abraham. C'est ça le inyan de Ele Toldot Hashamayim Veha'aretz Behi Bar'am. C'est comme ça qu'on termine, qu'on clôture l'histoire humaine tout entière. Et Dieu se cache à l'intérieur. C'est pour ça qu'on appelle Historia. Esther Ya. Akadosh Baruch Hu se cache dans l'histoire.
Il y a une tête et un taf.
Et des fois ça devient hystérique.
En hébreu, comme c'est un langage loisi, on peut les écrire comme on veut. Avraham ou apoter ve Avraham ou hachotem. Donc Avraham c'est celui qui ouvre et c'est celui qui clôture. Ou Arishon begilui musaga emuna. Donc c'est le premier qui nous enseigne ce que représente la emuna. Rappelez-vous, pas la foi, mais la certification des choses. Bisrut Hasdo shel Abraham nitzal melech haMashiach haGanuz beSdom. Et ce n'est pas par hasard que c'est Abraham qui va sauver Lot qui contient en lui le Mashiach. Par l'accouplement avec ses filles. Moralité, qui a sauvé le Mashiach? Depuis le début. Car le Mashiach doit toujours être sauvé parce qu'il y a toujours des embrouilles.
C'est Abraham.
C'est Abraham. Il comprend, il sort en guerre. contre des puissances pour sauver le Mashiach et pour amener quelqu'un qui, si toi tu étais avec lui à cette époque, tu lui aurais dit, t'es malade pour ce rachat. Tu vas se battre pour ce rachat, Lot. Il dit, toi tu vois un rachat. Moi, je vois toujours le point de lumière qui se cache à l'intérieur. Donc je vois le Mashiach dans Lot. Rappelez-vous, Lot égale écran. Je vois le Mashiach dans les écrans de la vie. Ça, c'est Avraham Avinu.
Tu veux dire que Mashiach sortira d'un très grand voyou, en fait,
d'une grande embrouille. Il est toujours sorti comme ça. C'est pas nouveau. Il est sorti d'une soi-disant prostituée. Il sort toujours d'une histoire de derrière les fagots. Les autres diraient, c'est pas très catholique. Nahon, c'est juif. Avraham Avinu hu hamatzil hagadol shel malchut Hashem ba'olam. Donc c'est le sauveur. Ça te convient?
Oui.
Shel malchut Hashem ba'olam hamelubeshet v'malchut Yisrael. Ou malchut zo atida le'atril ba'ir Hebron. Et où commencera toute l'histoire de la royauté d'Israël? À Hebron. C'est le premier roi David, car avant lui ce n'est pas un royaume, Shaoul. Shaoul veut dire emprunté. Le premier roi, le vrai roi, c'est David. Et donc David va commencer son royaume, sa royauté où?
À Hebron.
Donc Hebron, c'est la ville matrice de toute la Géoula, de tout le début. C'est pour ça que c'est très important, okay, de temps en temps d'aller voir là-bas et dire bonjour à grand-mère, à maman. Il y a des gens, j'étais étonné, ce matin quelqu'un est venu me voir, il m'a dit qu'il n'a jamais mis les pieds à Meharat HaMakpela, il ne sait même pas ce que c'est. C'est terrible.
C'est vrai.
Okay, c'est vrai. Tov, je ne vais pas rentrer dans tout, je vais juste vous traduire les 127 ans de Sarah, qui sont en réalité 100. C'est la couronne, c'est la totalité. 20, c'est la Chochma et la Bina, qui chacune d'entre elles a 10 degrés. Et 7, ce sont les Sphirot d'en bas. Donc, quand Sarah, on dit qu'elle a vécu 127 ans, ça veut dire qu'en réalité, elle a commencé l'acheminement de la couronne divine pour la faire venir jusqu'aux 7 degrés inférieurs, jusqu'à la royauté. Toda rabba.